Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Bruno Bayala.
Présumé piste d'atterrissage cachée au Burkina, le gouvernement explique que les investigations se poursuivent. Lionel Bilgo précise que des opérations sont en cours pour attester justement de l'existence ou non de cette présumée piste d'atterrissage qui servirait à des groupes armés. Menace de mort contre Newton Ahmed Barry, le forum d'Itanier se réjouit de l'arrestation du présumé auteur. Le porte-parole du forum d'Itanier salue le travail des autorités qui ont agi de façon immédiate pour apporter un soulagement à leurs camarades. Le porte-parole de la MINUSMA au Mali a 72 heures pour quitter le pays. Il est reproché à Olivier Salgado des publications tendancieuses et inacceptables sur Twitter, des publications dans lesquelles il déclare que le Mali était informé au préalable de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens. Et parlant justement de cette actualité au Mali, l'invité de cette édition est le professeur Ousseni Ili, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara. Il estime que l'hypothèse des mercenaires avancés par Bamako pour justifier la détention des militaires ivoiriens est difficilement soutenable. Bonsoir à tous et bienvenue. Depuis quelques jours, des informations font état de l'existence de pistes d'atterrissage cachées des terroristes au Burkina. Eh bien, le sujet était au cœur du Conseil des ministres de ce mercredi 20 juillet 2022. Le gouvernement explique que le commandement du théâtre des opérations continue de mener des investigations pour attester justement de l'existence ou non de cette présumée piste d'atterrissage qui servirait à des groupes armés. Sur la question, on écoute le porte-parole du gouvernement burkinabé Lionel Bilgo.
Sur la question donc de la piste d'atterrissage, oui, c'est une question lorsque nous l'avons appris que j'ai posé au COTN. Le COTN continue les investigations et cherche à comprendre également. J'avais déjà personnellement reçu les données bien avant la publication de cette information-là, de la part donc d'une source que je garderai confidentielle. Je l'avais également partagé au niveau de la défense, au niveau de la sécurité, mais également au niveau du COTN, qui l'avait bien réceptionné et avait déjà eu aussi également certaines données ou certaines informations sur ce sujet-là. Le COTN poursuit donc ses enquêtes, poursuit les recherches pour essayer de comprendre d'où vient cette piste d'atterrissage, d'abord si sa véracité est avérée ou pas, et certainement que dans le bulletin d'information de l'armée ou encore lors d'un point de presse organisé par le ministère de la Défense, des informations complémentaires ou des informations beaucoup plus en détail nous seront données.
L'une des grandes décisions prises à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 20 juillet est celle de la confirmation de la tenue de la Semaine nationale de la culture SNC, une édition qui va se tenir sous le thème « Diversité culturelle, ferment de l'unité nationale ». On écoute également le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo.
Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'état des préparatifs donc de l'organisation de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2022. Cette 20e édition est placée donc sous le thème donc de la diversité culturelle, ferment de l'unité nationale, avec comme pays invité d'honneur la République donc de Guinée-Conakry. Le Conseil donc a marqué son accord pour l'organisation de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Le Conseil a également donné des orientations pour que cette Semaine nationale de culture prenne en compte donc les réalités du moment et surtout les indications et les engagements donc de la transition.
Menace de mort contre Newton Ahmed Barry, le forum d'Itanier, une des organisations à laquelle appartient Newton Ahmed Barry, se réjouit de l'arrestation du présumé auteur. Commençant de 35 ans, l'homme s'est fendu d'un enregistrement audio en langue morée dans un groupe WhatsApp qui a vite été relayé dans plusieurs groupes dans autres groupes dans lesquels il a tenu des propos diffamatoires et incitatifs à la violence sur la personne de Newton Ahmed Barry. Guy Yogo, porte-parole du Forum d'Itanier, a donc salué le travail des autorités qui ont agi de façon immédiate pour apporter un soulagement à leurs camarades. Il a été joint au téléphone par Benabé Cabré.
Nous avons à l'époque sorti donc une déclaration dans laquelle nous avons invité et interpellé donc les autorités judiciaires à tout mettre en œuvre pour que la personne soit interpellée. Et nous nous réjouissons que avec la diligence, la célérité, cela a été possible et que le bureau du procureur a pris les dispositions utiles, que des actes de menace contre l'intégrité morale, physique et intellectuelle des citoyens burkinabés puissent être menacés et que nous puissions continuer de poursuivre dans la construction de la paix et le maintien donc de la cohésion sociale et la liberté de pensée, de parole et d'action. Le forum du dernier va suivre le dossier de près. Déjà, il est prévu donc le 22 juillet, le procès donc au tribunal, et nous serons effectivement mobilisés toujours pour faire en sorte que la justice prévale et que le droit soit dit.
Voilà à l'instant Guy Yogo, porte-parole du Forum d'Itanié, qui saluait donc le travail des autorités qui ont agi de façon immédiate pour apporter un soulagement à leur camarade Newton Ahmed Barry. L'Agence française de développement et le gouvernement burkinabé ont procédé ce matin à la signature de conventions d'accord. Il s'agit d'un financement du projet de modernisation et de renforcement d'urgence des services publics ruraux d'eau potable en zone de crise dans la région du Centre-Nord et pour l'extension du projet filet sociaux dans la province du Gourma. Le montant total de la signature de cette convention s'élève à 9,9 milliards de francs CFA. Les détails avec Pierre Badelot.
14 millions d'euros, environ 9,9 milliards de francs CFA, c'est le montant de la convention de l'ADF, Agence française de développement, qui vise à financer deux projets. Le premier est le projet de modernisation et de renforcement d'urgence des services publics ruraux d'eau potable en zone de crise dans la région du Centre-Nord. Luc Allas, ambassadeur de la France au Burkina Faso.
Je pense qu'on répond à une demande gouvernementale, à une priorité gouvernementale. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective a récemment présenté le plan d'action de la transition. Dans ce plan d'action de la transition, la deuxième priorité, c'est répondre à la crise humanitaire. Et en l'occurrence, avec ces actions, à la fois en direction des personnes vulnérables avec les filets sociaux à travers cette adduction d'eau dans le Centre-Nord, je crois qu'on répond effectivement à des besoins essentiels, des besoins humanitaires, mais en même temps en préparant l'avenir et en anticipant sur les besoins à venir des populations. Donc, je suis très heureux que quelques jours après la présentation de ce plan d'action de la transition, nous soyons déjà réunis dans cette salle aux bonnes nouvelles pour signer ces conventions de financement.
Cette convention de financement entre l'Agence française de développement et le gouvernement du Burkina Faso vient soulager le pays des hommes intègres en proie à la crise sécuritaire. Lazare Zongrana, ministre de la Solidarité nationale.
Disons d'abord que c'est au nom de plus hautes autorités burkina que nous sommes venus ce soir pour exprimer le remerciement donc du Burkina à l'endroit donc de l'agence française de développement et à travers cette agence le peuple français. Les besoins humanitaires sont énormes et la France, en agissant de la sorte, vient appuyer un peuple ami dans la réponse donc à la crise humanitaire. Mais au-delà de ça, il y a aussi cet appui en matière donc d'approvisionnement en eau potable. Et je pense que dans le Sahel, le problème d'eau est tout le temps récurrent. Cet appui que nous venons de recevoir de ce peuple ami qu'est la France est à point nommé et nous ne pouvons que nous réjouir en tant que département ministériel en charge de la réponse humanitaire.
Sur les 9,9 milliards de francs CFA, 3,94 milliards est destiné au projet de modernisation et de renforcement d'urgence des services publics ruraux d'eau potable en zone de crise dans la région du Centre-Nord. Et 5,25 milliards sont affectés au financement de l'extension du projet filet sociaux dans la région de l'Est. Le projet sera mis en œuvre par le ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire à travers l'unité de gestion du projet mise en place dans le cadre d'interventions précédentes soutenues par d'autres partenaires.
Et merci à Pierre Badolo pour tous ces détails. La planification familiale est reconnue depuis longtemps en Afrique subsaharienne comme un moyen pour maintenir et améliorer la santé des femmes. Et dans le but de contribuer à la réussite des programmes de planification familiale au Burkina, l'Institut supérieur des sciences de la population, en collaboration avec l'Université Johns Hopkins, a organisé un atelier de dissémination des résultats phase 3 du projet Performance Monitoring for Action. Cette rencontre a pour objectif de permettre aux différents acteurs de la santé, de la reproduction, de s'approprier les résultats du clé Round 9 du projet. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mercredi 20 juillet à Ouagadougou. Les détails avec avec Gisèle Tirogo, Neymata Kabore, qui emprunte la voix de Gildas Da.
La plateforme de recherche Performance Monitoring for Action, PMA, a été conçue au Burkina pour faciliter le suivi du progrès en santé de reproduction en général et des indicateurs de planification familiale en particulier. Pour cette troisième phase de recherche, les données ont été collectées entre décembre 2021 et février de cette année, et ce, auprès de 5377 ménages et 6078 femmes sur 239 sites de prestations de santé. Les résultats sont jugés satisfaisants, même si des efforts restent à consentir, selon la secrétaire générale du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Estelle Dabiré.
D'ores et déjà, on peut se dire satisfait et déjà d'avoir des résultats. Cette plateforme a permis de faire des enquêtes et d'avoir des données. Et on sait que de façon globale, les résultats, bien qu'on soit satisfait d'avoir des données, on n'est pas satisfait de l'atteinte des indicateurs. On a toujours beaucoup d'efforts à faire en matière de santé de la reproduction.
Performance Monitoring for Action est une source importante de données fiables mises à la disposition du ministère en charge de la santé et à l'ensemble de ses partenaires. Dr Georges Guéla, enseignant-chercheur à l'ISPP et coordonnateur de projet, décline les résultats obtenus après analyse de ces données.
Pour les résultats globaux, on va dire qu'environ 32% de la population féminine utilise actuellement la planification familiale, ce qui n'est pas mal parce qu'il reste encore des femmes qui en ont besoin mais qui n'ont pas accès. Deuxième grand résultat, c'est au niveau des prestataires. Nous avons constaté qu'il y a un problème de counseling parce qu'il n'y a que 42% des femmes qui ont bénéficié d'un counseling complet.
Les crises sécuritaires et sanitaires affectent la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation des services de santé. Cette situation pourrait exacerber le faible accès des adolescents et des femmes rurales et périurbains aux services de santé de la reproduction et de la planification familiale.
Et merci de suivre le journal sur Radio Omega au ministère de la Santé humaine et animale qui annonce l'ouverture des concours professionnels au profit des attachés de santé, des infirmiers diplômés et des sages-femmes d'État, ainsi que des conseillers d'élevage et de santé animale. Outre cela, ces agents des zones impactées par l'insécurité dont les salaires ont été coupés ou encore suspendus pour abandon de poste entreront donc en possession de leur dû. Les autres détails avec Moumouni Yaro.
Cette bonne nouvelle pour les victimes annonce également le rétablissement des décorations pour fait de grève en 2019, la restitution des salaires retenus à cet effet. Des salaires indûment coupés depuis 2016 à ce jour, selon Bassolman Bazier, ministre de la fonction publique.
Quand un agent public est en mouvement de grève, les textes prévoient que ce soit le 30e indivisible de son salaire qui est retenu. Ça veut dire que c'est le salaire de base, sans les indemnités et autres, qu'on prend. On divise par 30. Vous avez fait un jour de grève, c'est l'équivalent de ce jour de grève-là qu'on retient. Si c'est deux jours, on multiplie l'équivalent par deux. Mais si quelqu'un, par exemple, est en mouvement de grève ou de cessation de travail, même si c'est une seule journée qu'il a eu à faire, s'il touche 150 000 francs, indemnité y compris, et vous lui retenez 75 000 francs, ça ne se justifie pas.
Justice sera donc faite pour elle. Bassolman Bazier.
Il y a un certain nombre de ministres, de responsables qui sont arrivés, qui ont déjà même fait le calcul à leur niveau. Ils connaissent le nombre des agents qui sont concernés, ils connaissent les montants, les sommes ont été disponibilisées. Ceux qui seront cartographiés, qui sont directement dans la fonction publique, par ministère, le ministre concerné prendra toutes les dispositions nécessaires pour que les agents qui sont toujours en place et qui peuvent bien cartographier sur la base de leur numéro matricule et leur compte, l'argent soit directement reversé. Mais si l'argent n'est plus au niveau du ministère, la lettre circulaire qui a été signée par son Excellence Monsieur le Premier ministre lui permet de faire preuve de la coupure abusive de la suspension. Même s'il est dans un établissement public d'État détaché ou dans une autre institution, de rentrer en possession de son dû.
Cette décision vise d'autre part à éviter les enrôlements des fonctionnaires des zones de conflit victimes des sanctions pour abandon du poste dans les rangs des terroristes.
Quand un agent, par exemple, sert à Djibo, pour des raisons d'attaque, il quitte Djibo. D'abord, l'État doit s'assurer est-ce que psychologiquement il tient. Deuxièmement, s'il tient et qu'il retourne à son poste, l'État, sachant qu'il a fait absence de 2 semaines, si vous vous permettez de dire qu'il a fait 2 semaines d'absence et vous commencez à précompter des trop perçus au moment où il n'était pas là, l'intéressé est sous prêt. Si c'est un agent qui touche par exemple 100 000 francs et que l'État, pour des questions de son absence, prélève 50 000 et peut-être que la banque prélève aussi 40 000, il lui reste 10 000 pour l'exposer à un type de recrutement. Parce que si des hommes armés vont constater que lui-même, sa façon de vivre, ça ne va pas, il peut être récupéré de l'autre côté. Voilà pourquoi nous estimons que, en attendant de trouver d'autres moyens d'encouragement, l'ensemble de ces agents qui sont sur ces zones de braise-là il ne faut pas les mettre dans une situation inexpliquée et inacceptable.
Toutes ces mesures entrent en vigueur au plus tard ce mercredi 20 juillet pour les travailleurs de la fonction publique.
Hors de nos frontières, le Mali a invité ce mercredi le porte-parole de la MINUSMA à quitter le pays dans un délai de 72 heures. Une décision de la transition malienne qui intervient suite aux propos qualifiés de tendancieux et inacceptables sur Twitter par Olivier Salgado. Abdel Fattah Timtouré, qu'en est-il exactement de cette décision prise par le Mali?
72 heures pour quitter le Mali. L'injonction a été communiquée à Daniela Crosslack, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali, reçu en audience ce 20 juillet par le ministre en charge des Affaires étrangères. Selon Bamako, Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, a fait une série de publications, je cite, « tendancieuses et inacceptables » sur le réseau social Twitter, déclarant sans aucune preuve que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport le 10 juillet dernier. Le gouvernement malien indique aussi que le courrier officiel adressé à Olivier Salgado à travers sa hiérarchie depuis le 12 juillet dernier, lui demandant de fournir la preuve des affirmations contenues dans son tweet ou au cas contraire de porter la rectification nécessaire dans la même forme, est resté sans suite. Bamako dit ne pas pouvoir passer sous silence ces agissements qui portent atteinte, dit-il, au partenariat avec la MINUSMA et d'autres partenaires. Le pays dit cependant réitérer sa disponibilité constante à maintenir le dialogue et à poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la MINUSMA, qui compte quelque 15 000 hommes, dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de respect mutuel. Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA, avait affirmé que les militaires ivoiriens faisaient bel et bien partie du support national qui collabore directement avec la mission de l'ONU au Mali. Pour le moment, les 49 soldats ivoiriens sont toujours détenus à Bamako et considérés comme des mercenaires. Une enquête est ouverte par le procureur général de Bamako pour, dit-il, faire toute la lumière. Lundi, le président de la transition Assimi Goïta a souhaité que le Togo mène une mission de bons offices entre les différentes parties concernées.
La revue de presse.
Et la plupart des quotidiens du jour se prononcent sur la crise foncière que connaît le Burkina et qui pourrait conduire à un autre type de terrorisme. Nos confrères commentent aussi la médiation du Togo dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. La revue de presse de ce mercredi, c'est avec Brigitte Yoda.
Les journaux du jour commentent la crise diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire et la crise foncière au Burkina Faso. Commençons par le dernier sujet, la promotion immobilière, faut-il le rappeler, a connu un essor à la faveur de la suspension des opérations de lotissement par l'État suite aux crises sociopolitiques et économiques en 2012 et 2014. Depuis lors, la problématique est devenue source de conflits, relate le quotidien, pour qui il faudra à tout prix désamorcer la bombe foncière, en finir avec la criminalité foncière pour éviter un chaos dans le chaos. L'Express du Faso parle d'un autre type de terrorisme à prévenir. Pour lui, il n'est nul besoin de dire aussi que l'une des raisons du terrorisme se trouve dans la mauvaise gestion qui a été faite du foncier sur l'ensemble du territoire. Invitant les membres de la commission chargée de donner son avis sur la cession des terres à agir dans l'intégrité et la transparence, gage d'un succès de leur mission, le quotidien salue l'appel à un sursaut patriotique des acteurs lancé par le Premier ministre Albert Ouédraogo pour assainir ce secteur vital. Selon l'Express du Faso, au regard de la situation, il faut appliquer les textes car en la matière, il y en a suffisamment. D'une crise à une autre, le fils d'Eyadema, appelé à la rescousse dans l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens au Mali. Le président de la transition malienne estime qu'il pourrait aider à décrisper l'atmosphère entre Abidjan et Bamako puisqu'il avait déjà été un des principaux artisans dont la levée des sanctions imposées au Mali par la CEDEAO souligne aujourd'hui au Faso. C'est donc un allié objectif sur lequel Assimi Goïta peut compter pour sortir rapidement de la mini-crise qui s'est installée, mentionne l'observateur Palga. Le président togolais serait-il aussi en train de chercher un allié dans la lutte contre l'insécurité ? Aujourd'hui, Faso, en tout cas, précise que fort en Europe cette médiation Côte d'Ivoire-Mali au moment où son pays commence à être régulièrement la cible des barbares djihadistes qui tentent de prendre pied dans la région des Cascades malgré un état d'urgence de 6 mois décrété. Fort joue donc au bord du Djoliba à quitte ou double, estime le journal. Si pour l'observateur, le Togo, ne l'oublions pas, a été, par le passé, souvent amené à jouer les bons offices de nombreuses crises sous-régionales et africaines, pour aujourd'hui au Faso, s'il réussit au Mali, Faure Gnassingbé aura endossé un des costumes de son paternel qui, pendant des années, a aidé de nombreux voisins ou non, dont la case brûlait à éteindre l'incendie, conclut aujourd'hui au Faso.
Et voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne écoute radiophonique.
Radio Omega, l'info en direct.